RFI, 6h, à Paris, 5h, en temps universel.
Marion Cazanov.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Volodymyr Zelensky l'assure, il n'a reçu aucune pression de la part de Donald Trump.
Les présidents ukrainiens et américains se sont appelés hier et les États-Unis proposent de prendre possession des centrales électriques ukrainiennes. On y revient dès le début de ce journal. On vous emmène ensuite à la frontière entre la Syrie et le Liban, à la rencontre de ces Alaouites qui fuient les exactions de ces dernières semaines. Elles ont fait près de 1500 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans ce journal également, les combats qui continuent dans l'Est de la République démocratique du Congo, malgré la rencontre surprise de mardi entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les chefs d'État congolais et rwandais ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu. Ils sont 7 à espérer devenir le ou la prochaine présidente du CIO, le comité olympique. L'élection a lieu aujourd'hui. Et puis on se quittera en musique avec un avant-goût de notre choix musical du jour, le nouvel album de la star brésilienne Seu Jorge.
Ça va mieux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Les présidents américains et ukrainiens se sont appelés hier.
Et on est loin, très loin de l'ambiance pour le moins tendue du mois dernier à la Maison Blanche. Cette fois, Donald Trump parle d'un très bon appel, fantastique même, avec son homologue. Une heure de discussion et nous sommes sur la bonne voie, écrit le président américain sur les réseaux sociaux. Lui qui, la veille, déjà avait appelé Vladimir Poutine, n'obtenant qu'une trêve très limitée de 30 jours pendant lesquels la Russie accepte de ne pas frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Mais déjà, Donald Trump pense à l'après et il propose que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes. Ce serait selon lui la meilleure protection et le meilleur soutien possible. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi lors d'une conférence de presse et il nuance, ça a été évoqué, oui, mais pas pour toutes les centrales.
Je n'ai ressenti aucune pression de la part du président Trump. Il n'y a pas eu de pression, c'est un fait. Je suis sincère. Si c'était le cas, je le dirais. Il n'y a pas eu de question sur le réseau des centrales nucléaires. La discussion portait exclusivement sur la centrale qui est temporairement occupée, celle de Zaporijjia. Cette centrale est en danger parce que la Russie la contrôle avec des armes et elle ne fonctionne pas parce que la Russie la détient et l'occupe de manière absolument illégal. Le président Donald Trump m'a demandé s'il y avait un accord selon lequel l'Amérique pourrait la reconstruire. Et je lui ai répondu que oui, si nous pouvons la moderniser, investir de l'argent, etc. Nous avons parlé uniquement d'une centrale, celle qui est sous occupation russe.
Volodymyr Zelensky, dont la conférence de presse a été interrompue par un autre coup de téléphone, passé cette fois par Emmanuel Macron. Il l'assure, le président français et lui se parlent tous les jours et il annonce qu'il se rendra en France la semaine prochaine. Mais c'est à Londres, au Royaume-Uni, que se réunissent aujourd'hui les chefs d'état-major d'une trentaine de pays. Ils doivent discuter d'un plan de maintien de la paix à dégainer en cas de trêve pérenne entre l'Ukraine et la Russie. On n'y est pas, cela dit, la Russie dit avoir abattu cette nuit 132 drones ukrainiens. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se retrouvent, eux, à Bruxelles ce jeudi pour un Conseil européen spécial, lors duquel il devrait là aussi être largement question de la guerre en Ukraine, un conflit qui pousse les 27 à se réarmer. La Commission européenne a présenté hier un livre blanc pour la défense, une sorte de mode d'emploi pour les États membres sur la marche à suivre afin de renforcer les capacités de défense du continent.
De nouvelles frappes israéliennes cette nuit à Gaza.
Selon la défense civile locale, au moins 10 civils ont été tués à Ran Younes, dans le sud de l'enclave. Déjà près de 500 morts depuis la reprise des bombardements de l'armée israélienne dans la nuit de lundi à mardi, malgré la trêve entrée en vigueur en janvier. Hier, le ministre israélien de la Défense a parlé de dernier avertissement à destination des Gazaouis, exigeant la libération des otages israéliens encore aux mains du Hamas.
En Syrie, ce sont près de 1500 personnes qui ont été tuées ces dernières semaines.
À bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, principale victime de ces exactions, la communauté alaouite, celle dont était issu le président déchu Bachar al-Assad. Les nouvelles autorités ont lancé une commission d'enquête chargée de déterminer les responsables de ces massacres. Mais sur la côte, les violences continuent, comme en témoignent des habitants qui ont fui vers le Liban et que notre envoyé spécial à la frontière, Manon Chaplin, a pu rencontrer. Reportage.
Dans la précipitation, Hassan n'a eu le temps d'emporter que quelques affaires. Des vêtements, des médicaments enfournés à la hâte dans un petit sac. Arrivé devant la frontière libanaise, il doit traverser une rivière. De l'autre côté, l'attente des voisins, des amis qui ont fui sous les balles avant lui. Mais pour aller où, désormais, demande-t-il.
Je ne sais pas, je vais peut-être essayer d'aller au Canada, dans n'importe quelle région, tant que c'est loin d'ici. Dans cette situation, la Syrie n'est plus vivable pour nous. La Syrie, c'est fini.
De l'autre côté de la rivière, tous racontent peu ou prou la même histoire, des dizaines de pick-up, des hommes vêtus de noir, puis le bruit de ces tirs, de ces cris et l'odeur de ces corps restés plusieurs jours à même le sol. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça, demande un homme, le pantalon recouvert de terre.
Il se venge de nous parce que Bachar al-Assad est alaouite. Mais nous ne sommes pas Bachar al-Assad.
Asma dort désormais à même le sol d'une mosquée libanaise. Elle habitait Banias, a pris la fuite un matin avec ses 4 enfants à travers champs, avant que son fils, Issam, 10 ans, ne se prenne une balle dans le bras droit.
Ils ont détruit son avenir, celui de tous mes enfants. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, nous avons perdu l'espoir en toute chose. S'il n'y a pas de miracle, c'est certain que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Maintenant, que sommes-nous censés faire? Nous sommes condamnés à être déplacés d'un endroit à l'autre, c'est ça?
Face à l'ampleur des tueries, Asma, comme tous les autres, le répète ici. Nous préférons devenir des réfugiés plutôt que de retourner en Syrie. Manon Chaplin à la frontière libano-syrienne, RFI.
RFI, 7h06, à Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Hier, les affrontements se poursuivaient dans ce territoire de la province du Nord Kivu, entre le M23, soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise, appuyée par la Wazalendo. Après plusieurs jours de combats autour de Walikale, ils ont cette fois été signalés à l'intérieur de la ville. Toujours pas de cessez-le-feu, donc, pourtant espéré après la rencontre de mardi entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. C'était à Doha. Ça n'en demeure pas moins un véritable coup diplomatique pour le Qatar, un médiateur de plus en plus plébiscité car perçu comme un acteur neutre, prêt à s'investir. C'est ce que nous explique Benjamin Auger, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI.
Je pense que le levier, c'est le même que dans toutes les médiations que le Qatar a entrepris depuis déjà plus d'une décennie. C'est-à-dire qu'il se voit comme un acteur qui lui-même n'a pas besoin de business, qui est plutôt un acteur qu'on vient chercher pour pouvoir avoir des fonds. Il se considère comme un acteur neutre. Donc, il met à disposition sa plateforme de négociation et de médiation pour pouvoir négocier. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Nécessite des moyens, il mettra des moyens. Si ça nécessite éventuellement des investissements dans les deux pays, il mettra la main à la poche. Et l'objectif, c'est que, quel que soit le temps que ça prendra, qu'ils arrivent à un consensus. Donc, c'est un acteur dont on pense pas, du point de vue de Kinshasa ou du point de vue du Rwanda, qu'il y a un agenda caché. Et ça, c'est la grande force du Qatar, depuis longtemps, dans toutes les médiations qu'il a entrepris, que ce soit en Afghanistan, au Darfour et dans bien d'autres cas.
Des propos recueillis par François Mazet.
Aux États-Unis, le ministère de l'Éducation vit peut-être ses dernières heures.
Les médias américains l'affirment, le président Donald Trump devrait signer aujourd'hui un décret visant à démanteler ce ministère. C'était l'une de ses promesses de campagne, applaudie par les républicains qui accusent les écoles d'endoctriner les enfants à coups d'idées militantes en faveur des minorités. Donald Trump veut que les pouvoirs du ministère soit délégué directement aux États.
Qui pour succéder à Thomas Barr à la tête du Comité international olympique?
Eh bien, réponse aujourd'hui à Costa Navarino dans le sud de la Grèce. 7 candidats en lice, c'est un record et l'issue de l'élection est hautement incertaine. Reportage de notre envoyé spécial Christophe Diremzian.
Le luxueux complexe hôtelier où logent les membres du CIO regorge d'endroits pour user de sa force de persuasion. Entre pause café et dîner aux tables bien choisies, chaque candidat tente encore de convaincre. Annoncée comme la préférée de Thomas Barr, l'ancienne nageuse Kirsty Coventry reste confiante.
So far, so good.
Jusqu'ici, tout va bien. Vous savez, nous sommes impatients de voir comment tout va se dérouler. Ces derniers mois ont été chargés, donc je suis excitée. Je pense que c'est mon état d'esprit d'athlète qui revient avec toute l'adrénaline dans la dernière ligne droite des 200 mètres puis des 25 mètres. Il faut juste rester concentré et rester dans ma ligne d'eau.
La Zimbabwéenne, première à se présenter au nom de l'Afrique, serait dans le trio de tête avec le très efficace Sébastien Co, ex-patron des JO de Londres, et l'expérimenté Juan Antonio Samaranch, fils de l'ex-président du CIO pendant 21 ans. Mais le Français David Lapartien se voit toujours créer la surprise.
Je continue à rencontrer les collègues et sentir un peu quelles sont les questions qu'ils se posent encore, sur moi ou sur les élections. Il faut aller jusqu'au dernier moment. Souvent, vous arrivez dans une élection comme ça, ça parle quand même beaucoup, il y a des tendances qui se dégagent et souvent les collègues veulent aller plus tôt dans l'endroit où les tendances se dégagent pour que leur vote soit utile. Donc il faut apparaître plutôt comme étant un de ceux qui peuvent sortir du chapeau, sinon vous risquez de vous affaiblir.
Dans ce scrutin qui concerne moins d'une centaine d'électeurs, chaque voix grappillée sera précieuse, d'autant que les compatriotes d'un candidat ne peuvent pas voter pour lui. Christophe Diremzian, Costa Navarino, RFI.
Et l'élection devrait démarrer aux alentours de 15h, heure de Paris. Nous, on y revient plus longuement dans notre dossier du jour. Ce sera dans le journal de 8h.
C'était hier à Paris la deuxième édition du Salon de l'emploi pour les réfugiés.
Ils sont 600 000 en France, un pays qui souffre d'une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs. Il y a des besoins. Pourtant, selon France Travail, l'agence gouvernementale pour l'emploi, les réfugiés seraient trois fois plus touchés par le chômage. La faute, entre autres, à la barrière de la langue, le manque de réseau ou encore les lourdeurs administratives, d'où l'utilité de ce salon où s'est rendu notre journaliste Charlotte Cosset.
Cette Congolaise a obtenu son statut de réfugiée il y a 3 ans. Elle s'est formée au métier de la cuisine, un secteur sous tension, pourtant difficile de trouver du travail.
J'ai postulé en ligne, mais il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai postulé beaucoup.
10, 20,
même 40. Hein.
Aucune réponse.
Ok, il y a réponse, il n'y a pas de place, madame.
Parmi les exposants, IDEX, spécialisé dans l'énergie, son coordinateur RSE, Anthony Lanluc, précise que l'entreprise dispose actuellement de 600 offres d'emploi dans toute la France, des métiers souvent techniques pour lesquels ils ont du mal à recruter.
C'est difficile, c'est pour ça qu'on s'ouvre à d'autres types de profils. On a des freins et des barrières un peu naturellement, mais je pense qu'il faut poser des questions et creuser un petit peu, et même parfois les candidats ne parlent pas de certaines expériences qui peuvent intéresser sur le poste.
Pour les entreprises qui auraient encore des réticences, Yasmine Leroux, directrice de Tent France, souligne l'apport des personnes réfugiées.
Ils permettent d'améliorer la diversité dans l'entreprise et donc ses sources d'innovation. Nous constatons également que les personnes réfugiées, du fait de leur parcours, sont particulièrement fidèles à l'entreprise qui les recrute, sont particulièrement motivées et résilientes. Et en général, ils ont des parcours assez notables dans les entreprises, donc c'est vraiment gagnant aussi d'un point de vue business.
Elle souligne également qu'il faut près de 10 ans à un réfugié pour retrouver un emploi à hauteur de sa qualification d'origine.
Reportage de Charlotte Cosset.
Et on reste à Paris, mais pour parler musique.
Car c'est dans la capitale française, Marion, que se rendra début avril la star brésilienne Seu Jorge, une série de concerts au Grand Rex pour présenter son nouvel album Avant-goût avec Hugo Casalino.
Oh, oh, oh. Depuis 2004, Seu Jorge s'impose comme la nouvelle figure de la musique brésilienne grâce à ce titre qu'il a fait connaître Tiverazão avec Mathieu Chedid à la guitare. Un titre extrait de son premier album Cru, enregistré à Paris, produit et réalisé par Gringo da Parada du célèbre club parisien La Favela Chic. 2 ans auparavant, Seu Jorge avait déjà crevé l'écran dans le magnifique film de Fernando Meirelles, La Cité de Dieu. Son succès musical, il le doit notamment à son style le samba rock, plein de groove et de funk, comme sur son dernier disque Baile a la Baiana, qui vient de sortir, toujours aussi festif que ses précédents albums, et avec des sonorités latines proches du merengue ou de la biguine. En playlist RFI, ce premier extrait, Sabado à Noite, une fièvre du samedi soir que tout le monde attend pour faire la fête.
Já me chamava de Will Simonal.
Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite.
Todo mundo vai pra festa, que beleza.
Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite.
Já me chamava de Wilson Simonal.
Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite.
Todo mundo vai pra festa. Sapato, sentido baixa de sapateiro. Pertinho, vizinho do mercado das 7 saídas. Você sabe por quê? Você sabe por quê?
Você sabe por quê?
É aquele balanço de negão.
Seu Jorge et son nouvel album, ce sera notre choix musical du jour, juste avant 9h, avec Hugo Casalino et avec vous, Mario Casanova.
Et on a hâte d'y revenir, merci Gaëtan Plenet. Il est 6h13 à Paris, 5h13 en temps universel. On est ensemble pour 3 heures d'infos. Au programme, le Conseil spécial des Européens pour leur réarmement. On parlera du cas de la France dans Aujourd'hui l'économie. Où trouver de l'argent ? Paris compte beaucoup sur les banques, on le verra. Dans l'est de la RDC, les combats se poursuivent autour et dans la ville de Walikale. Après la rencontre entre les présidents congolais et rwandais, les responsables catholiques et protestants de RDC ont salué cet entretien et demandent la poursuite du dialogue.
Ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce
dialogue parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire. Et pour nous, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent retrouver le consensus national, la cohésion nationale. Et ça demande que chacun puisse se dépasser.
Le reportage Afrique au Cameroun, fin de notre série sur la crise sécuritaire dans les régions anglophones où les enlèvements contre rançon sont fréquents.
C'était terrible, terrifiant. Ils pointent des armes sur vous, vous donnent des coups de pied, vous frappent. Vous voyez ces marques sur mes jambes, ce sont des cigarettes. Il n'y a pas eu de viol, nous avons eu de la chance. Mais les gens qu'ils ont emmenés avant nous, nous avons compris qu'ils avaient été tués.
Témoignage à écouter après le journal de 7h30, temps universel. Et puis dans Question d'environnement ce matin, on parlera de science participative. Quand les citoyens aident la recherche, on verra que leur participation est même cruciale. RFI Matin, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part d'abord au Japon pour la chronique à la une. En Asie, le Japon célèbre aujourd'hui un triste anniversaire, les 30 ans de l'attentat du métro de Tokyo au gaz sarin. Attentat perpétré par la secte Aum qui a fait 14 morts, 6300 blessés, la plupart grièvement. On retrouve à Tokyo Bruno Duval, notre correspondant. Bruno, 30 ans après, les victimes ont encore des séquelles liées à l'inhalation de ce gaz toxique.
Oui, c'est le cas de 60% des victimes de cet attentat. Écoutez d'abord Ikuno Morise, qui était dans une des rames de métro attaquées par Aum. Puis le docteur Shinichi Nishimatsu, qui soigne de nombreuses personnes qui furent intoxiquées par le sarin.
Tout à coup, j'ai eu terriblement mal aux yeux, ma vue s'est brouillée. J'ai commencé à avoir des palpitations et puis aussi des difficultés à respirer. J'ai alors compris que quelque chose de très grave était en train de se passer et que je devais donc absolument sortir de cette rame le plus vite possible, sinon je risquais d'y mourir. Depuis, j'ai régulièrement des problèmes respiratoires, oculaires ou musculaires et une fatigue chronique terrible qui me cloue souvent au lit. J'essaie de garder le moral en me disant que je suis en vie et que peut-être des jours meilleurs sont à venir.
L'état de santé de la plupart de mes patients évolue grandement du jour au lendemain et de manière toujours imprévisible. C'est bien sûr très déstabilisant pour eux au quotidien, donc ils nécessitent un soutien constant, un soutien physique, mais aussi psychologique, leur santé mentale étant très affectée par une souffrance aussi interminable.
25% des victimes de l'attentat souffrent de stress post-traumatique. Par exemple, elles ont la phobie des transports publics ou des lieux bondés, des gares et des stations de métro aux heures de pointe, par exemple.
Le ministre de la Justice vient de lancer un appel solennel à la vigilance, car 30 ans plus tard, Bruno, la menace d'Aum demeure.
C'est ça, car trois groupes lui ont succédé. Il compte environ 2000 adeptes, dont une majorité de jeunes, qui n'étaient pas nés en 1995, donc n'ont pas vécu cet événement. Ces sectes les attirent en leur proposant ce qu'elles présentent comme des cours de yoga ou de méditation transcendantale, ainsi que des ateliers dits de développement spirituel. Autant d'activités qui sont parfaitement légales, donc ces groupes ne peuvent être interdits, juste très étroitement surveillés. L'impunité de ces sectes s'explique aussi par la constitution japonaise qui sacralise la liberté de culte. C'est dû au fait qu'elle date de 1947 et qu'à l'époque, elle fut rédigée sous la dictée de l'occupant américain, qui exigea que la liberté de religion y figure noir sur blanc, car à partir du milieu des années 20, le Japon avait connu une dérive à la fois nationaliste, ultra-conservatrice et militariste, pendant laquelle les autorités avaient interdit toutes les activités cultuelles, sauf celles liées à la religion ancestrale du pays, à savoir le shintoïsme, qui dans les faits devint la religion d'État. Les sectes tirent profit de cette constitution qui restreint les possibilités d'intervention des autorités en matière de culte, et elles prolifèrent comme jamais. On dénombre désormais 183 000 mouvements religieux dans l'archipel. Au total, 10 à 20% des Japonais affirment croire en des religions dites « nouvelles » ou « alternatives ».
À la une, en Asie, avec Bruno Duval, à Tokyo, RFI Matin. Dans un peu plus d'une heure, on parlera de ces tensions grandissantes dans le détroit de Taïwan avec le grand invité international, Arnaud Pontus. Vous recevez François Wu, vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan.
Oui, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine et Gaza, mais la menace chinoise pèse toujours sur l'île de Taïwan. La Chine considère l'île comme faisant partie intégrante de son territoire. Elle souhaite la réunification et laisse planer la menace d'une invasion militaire. C'est le cas depuis des années maintenant. On ne compte plus les incursions chinoises. En début de semaine, ce sont encore une soixantaine d'avions et de bateaux militaires chinois qui se sont rapprochés de Taïwan. À l'heure du grand chamboulement géopolitique mondial, on va demander au numéro 2 de la diplomatie taïwanaise s'il est inquiet. Est-ce qu'il craint de faire les frais d'un éventuel arrangement entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que Donald Trump pourrait abandonner Taïwan? On sait que les Taïwanais s'activent pour dissuader Pékin. Ils augmentent leur budget militaire, engrangent les soutiens internationaux. Ils rappellent aussi qu'ils sont les premiers producteurs de semi-conducteurs, ces puces électroniques qui sont dans les smartphones, les voitures électriques et l'armement. Autrement dit, s'ils sont attaqués, c'est toute l'économie mondiale de la haute technologie qui serait déstabilisée. On parle de tout ça avec François Wu, vice-ministre des Affaires étrangères de Taïwan, tout à l'heure.
Entretien à partir de 7h20, heure de Paris. À tout à l'heure, Arnaud. En France, la fin de la trêve hivernale approche, ce qui signifie que les propriétaires vont avoir le droit d'expulser les locataires qui ne payent pas leur loyer. Une situation que redoutent forcément de nombreuses personnes précaires, comme Steve Rose, 39 ans. En situation de handicap, il ne peut pas travailler et depuis des années, les factures, les dettes s'accumulent. Il craint de se retrouver à la rue dans une dizaine de jours. Lou Ekal l'a rencontré chez lui.
Steve se déplace difficilement, une canne dans la main.
J'ai une maladie des os sous les deux hanches. Ça s'effrite et ça fait des trous et à tout moment, elles peuvent se casser.
Le trentenaire ne travaille plus. Il sort peu de son 30 mètres carrés qu'il partage avec son compagnon. Sur les murs peints en bleu, il a collé des posters de My Hero Academia et de One Piece, ses mangas préférés. Toute la journée, la télévision lui tient compagnie. Elle est là pour les séries, les jeux vidéo ou comme fond musical.
À l'heure actuelle, la seule passion qui nous reste, du coup, les voyages, c'est pas possible. Les sorties, c'est assez compliqué. Ben c'est console de jeu. C'est le seul loisir que j'ai. Sinon, avec mon compagnon, on se fait des petites promenades juste dans le quartier pour arrêter un peu la tête. Même pour partir 3 jours, on n'arrive pas. J'ai des frais médicaux à payer, j'ai des factures à payer, plus le loyer à payer. Avec entre 1100 et 1200, on n'arrive pas trop.
Il y a un petit chat.
Deux,
c'est vrai.
Moon, un chaton au pelage gris, se frotte à ses pieds. Alors qu'il s'apprête à bondir sur un jouet télécommandé, quelque chose se faufile entre ses pattes.
Et bah, vous voyez. Hein.
Ah oui, c'est un cafard.
Oui, un cafard qui passe, qui est venu nous saluer. Depuis l'année dernière, je me bats avec les cafards. On a du mal à dormir parce que quand on dort, on sent des trucs qui marchent sur nous, on se réveille, on voit que c'est un cafard qui marche sur nous. Quand on a de quoi manger et tout, on ferme tout. Les cafards arrivent quand même à grignoter les sachets pour entrer à l'intérieur. On est obligé de jeter. C'est pas évident.
L'appartement est insalubre, dangereux même. L'an dernier, une prise s'est enflammée. Paradoxalement, la plus grande crainte de Steve, c'est de quitter ce logement. La fin de la trêve hivernale approche.
Je ne dois pas stresser, je ne dois pas angoisser, je dois essayer de rester zen, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Le mois de mars approche. Et à la fin du mois de mars, le courrier va arriver, il faut que je remette les lieux et je sais pas où aller. Mon compagnon même, il a même pas d'endroit aussi. Alors on est tous les deux, on se retrouve tous les deux à la rue.
Ça va faire 10 ans que Steve attend un logement social, mais son dossier est bloqué par ses impayés de loyer.
J'ai toute la bonne volonté, toute la bonne foi, je donne tout ce que j'ai comme argent pour le loyer. J'ai fait une demande d'FSL pour pouvoir payer la dette. C'est une aide de l'État qui a été refusée. Elle est montée à 6600 maintenant la dette.
Courir après les aides, demander de l'argent à ses proches, sauter des repas plusieurs fois par jour. Steve ne supporte plus cette situation. Il désespère et résume sa condition en une phrase. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie.
Le reportage France de Lou Ekal. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a lancé une guerre idéologique et financière contre les scientifiques. Une campagne de communication vise à décrédibiliser leurs recherches, notamment en matière d'environnement, de climat. Tout est fait pour saper la confiance de la population dans les faits scientifiques. Mais aujourd'hui, dans Question d'environnement, on s'attarde sur une tendance qui produit l'effet inverse quand les citoyens contribuent à des projets de recherche. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marion.
On parle alors de science participative. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la science participative, ce sont des citoyens comme vous et moi, Marion, qui vont collecter des informations dans leur environnement pour un projet de recherche. Ces informations sont ensuite transmises à des scientifiques qui ont ainsi accès à beaucoup plus de données pour approfondir le projet en question. Un exemple concret. Ces chants d'oiseaux que vous entendez ont été enregistrés par une application gratuite sur mon téléphone portable, Marion. Elle s'appelle Merlin Bird ID et a été créée par Cornell Lab, un laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell dans l'état de New York. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez lancer cette application pour savoir quelle espèce d'oiseau chante à côté de vous. Vous pouvez ensuite partager cette information ainsi que votre position avec Cornell Lab. Ces scientifiques peuvent ainsi suivre la répartition des populations d'oiseaux sur tous les continents. Durant les 10 premières années de ce programme, le Cornell Lab a reçu plus de 100 millions d'observations. C'est dire que ça marche.
Pour la science, la participation citoyenne est donc précieuse. Mais les citoyens, qu'est-ce qu'ils y gagnent ?
Eh bien, ils gagnent en compétences et c'est l'autre objectif de la science participative. On apprend aux citoyens les bases du travail des chercheurs et la collecte des données les sensibilise sur les enjeux environnementaux. Et par les temps qui courent, il y a un dernier point à souligner, je crois, les sciences participatives permettent à renouer le dialogue entre les chercheurs et leurs concitoyens. Et ça favorise la confiance dans les faits scientifiques, la base de chaque démocratie.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les résultats d'une recherche scientifique soient moins fiables quand ce sont des citoyens qui ont participé ?
Non, la fiabilité du résultat est identique avec des recherches menées par des seuls scientifiques professionnels, parce qu'une publication scientifique est toujours validée par les pairs, par d'autres scientifiques donc qui évalueront la pertinence du résultat de la recherche. Et c'est cela qui lui donne, dans les deux cas, sa crédibilité.
Et alors comment peut-on participer ?
Eh bien, il existe de nombreux projets. Au Sénégal, par exemple, des pêcheuses du delta du Saloum collaborent avec les scientifiques pour comprendre pourquoi le nombre de coquillages dont elles dépendent décline. En Chine, des villageois collectent des données qui servent à étudier les ressources en eau. Et en Norvège, des milliers d'élèves retournent la terre de leur jardin pour y compter les vers de terre, ce qui permet aux scientifiques d'étudier les états du sol. Alors si vous aussi, vous avez envie de mettre la main à la pâte, tapez « sciences participatives » et le nom de votre ville ou de votre pays dans un moteur de recherche, vous allez certainement trouver un projet et ainsi aider la recherche scientifique et donc nos sociétés à avancer.
Question d'environnement avec Stéphanie Schuller. Il est 6h26 à Paris, 5h26 en temps universel. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine. En attendant, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Benjamin B, un titre de MC Solar avec Joker.
Je me sens comme Benjamin Biolé. J'ai des pajamas francs, là des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Alcool à gogo, pole dance et gogo. Notes dans la poche, wesh à mon gogo. Émergence intime dans Jado au Togo. Logo Croco Crocs, flow anti-bobo. Un petit clic-clic, puis des tas de bratatata. Sa peinture, patapata, les roulements font taratata. Dans le club, c'est la cata, le choix, plata au plata. Ne parle pas d'eau plate, il la jette dans le titi caca.
Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici, l'ambiance est trop sérieuse. Je vais voir ton côté mystérieux. Comment tu bounces au poster? Je me sens comme Benjamin Biolé. J'ai des pajamas francs, plein des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Depuis des décennies, ce qu'on recherche, c'est le feng shui. Rolex, sushi, frites, bouillies ou bien cuit. Comme le veut la tradition, salé sera l'addition. À cause de notre addiction au charme, à la séduction.
J'ai de la bœuf dans mon blanc, la tequila dans mon cap. Aucun de nos deux soirs ne mérite de rentrer sale. Viens, on se casse de l'alcool, on s'égare dans le plat. Bounce, 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 comme moi jamais je suis fucked up. Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vais voir ton côté mystérieux. Comme moi tu bounce au postérieur. On se casse de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vois ton côté mystérieux. Comment tu bouges au postérieur? Je me sens comme Benjamin Biolé. J'ai des pajamas francs, plein des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Big Daddy.
Benjamin Bee, un titre d'MC Solar et Joker que vous retrouvez dans la playlist du mois de RFI. On revient dans une minute avec l'actualité africaine.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
on parle santé bucco-dentaire. À quelle fréquence faut-il se brosser les dents?
Demain,
dans Questions de femmes, on attend vos témoignages sur la souffrance liée au travail.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Black Metropolis, c'est ainsi que les Américains ont rebaptisé la ville de Chicago. Mais que sait-on de l'arrivée massive des Africains-Américains au début du XXe siècle, alors qu'ils fuyaient le racisme officiel des États du Sud? Comment ont-ils survécu et lutté pour leurs droits dans le ghetto urbain de Chicago?
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.